Radio Kapi.
Oh, Kapi. Grâce à Mzati à la présentation.
Plus de 20 morts et plusieurs disparus. Bilan du naufrage d'une embarcation sur la rivière Lukeni au Maïndombe. La baleinière quittait la cité d'Oshoué en direction des Gnocchi. Pour lutter contre les décès maternels, montée en flèche dans la zone de santé des Moba au Tanganyika, l'UNICEF dote cette entité d'un lot important de matériels médicaux pour la prise en charge des femmes et des nouveau-nés. Des jeunes de Bounia sont formés sur les techniques d'agriculture pour une production rapide par les casquets bleus bangladais de la MONUSCO. Nous en parlons dans ce journal avec notre invité Gloire Abassi, président du Parlement des jeunes de l'Ituri. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par ce naufrage d'une embarcation en bois sur la rivière Lukeni au Maïndombe. Au total, 28 corps sans vie, repêchés et enterrés dans la soirée de mercredi. Entre-temps, le commissaire fluvial et le commandant de la police fluviale du village Tolo sont en détention par l'équipe déployée par le gouvernement provincial pour des enquêtes. L'administrateur du territoire de Koutou, Jacques Nzenza Mongue, qui l'est dit, affirme que jusque-là, au moins 120 rescapés ont été enregistrés. Toujours selon lui, le bilan pourrait être revu à la hausse car les recherches se poursuivent. On l'écoute.
La recherche des corps nous a produit 28 corps retrouvés et enterrés. Par rapport aux rescapés, on en a enregistré 128. La recherche s'est faite sur place où on est en train de détruire la baleinière pour retrouver les corps dedans. Mais entre-temps, en aval, parfois, on reçoit deux corps qui flottent. Alors, les villageois et les pêcheurs les ramassent, font signe à l'équipe qui est au lieu du drame. Ils viennent récupérer ces corps pour enterrer. Parfois, ils donnent l'ordre que les enterrent toujours en aval. Là, on les a retrouvés. Il y a les commissaires fluviales de Tolo, les commandants de la police fluviale de Tolo qui sont aux arrêts, l'équipe de la province qui a mené aussi des investigations. Peut-être qu'ils ont trouvé qu'il faut les saisir pour en savoir plus et peaufiner les enquêtes. J'attire l'attention des opérateurs, des armateurs qui ne coûtent jamais avec ce problème de navigation nocturne, avec la surcharge de leurs embarcations. Voilà les conséquences.
Rappelons que la baleinière naufragée transportait à son bord plus de 300 passagers en provenance de la cité d'Oshoué à destination des Gnocchi. La dite embarcation s'est complètement réversée après avoir cogné un gros tronc d'arbre. La navigation nocturne et la surcharge sont les causes principales de ces drames, rapportent les autorités locales. Et puis cette réaction de Mgr Donatien Bafouidinsoni, évêque du diocèse catholique d'Inongo en tournée dans la région du drame. Il fait remarquer à travers un communiqué que les bandes des sables deviennent des obstacles pour la navigation, surtout cette rivière n'est pas balisée. Il note aussi que les embarcations naviguent sans repère avec tous les risques possibles. Il demande aux hommes d'affaires ou entrepreneurs épris de philanthropie et de compassion de doter la province des embarcations fiables et dignes de ses noms. Le résumé de son message avec vous, Blaise Makassi.
L'évêque du diocèse d'Inongo dénonce le fait que les embarcations naviguent la nuit du fait de l'entêtement des matelots, des réclamations des passagers eux-mêmes, avec la complicité des autorités fluviales, souvent corrompues et peu soucieuses de la vie des passagers. Selon Mgr Bafouidinsoni, le jour, cet accident serait évité parce que le tronc d'arbre à la base du naufrage était bien visible. Exprimant son désarroi et sa tristesse face à un naufrage de plus dans la province de Maïndombe, il fait remarquer que les appels lancés par les acteurs de la société civile ne sont pas entendus par des autorités dont les yeux ne voient plus des conditions précaires dans lesquelles voyagent leurs compatriotes. En plus, les dirigeants sont, selon lui, incapables de proposer des solutions efficaces ou de prendre des décisions suivies des faits, comme l'interdiction des voyages nocturnes, la surcharge et l'établissement des manifestes fantaisistes. Il espère que les nouvelles autorités de la province seront plus attentives aux conditions des voyages, au type et à la qualité des embarcations susceptibles de parcourir des rivières et lacs d'Inongo.
Parlons de l'épidémie de monkeypox. 11 cas ont été confirmés dans la ville de Kinshasa au cours de la semaine du 12 au 18 août courant. Les malades sont actuellement sous traitement et internés à l'hôpital général des références ex-Mamaemo, selon le docteur Chris Katita, chef des sections des opérations du programme national de lutte contre le monkeypox cité par l'agence congolaise des presses ACP. Depuis le début de l'année, Kinshasa a enregistré 103 cas suspects et 23 confirmés de monkeypox testés au laboratoire de l'Institut national des recherches biomédicales INRB. Selon ces médecins, la zone de santé délimitée est l'épicentre de l'épidémie de monkeypox ici dans la capitale. province du Tanganyika, l'UNICEF a doté mardi la zone de santé de Moba d'un important lot de médicaments et de matériels médicaux pour la prise en charge des femmes qui accouchent et des nouveau-nés. Le médecin chef des zones annonce que depuis le début de cette année, la zone de santé a enregistré un nombre important de décès maternels. Le point avec Paul Monanga.
Au total, 12 aires de santé et l'hôpital général de référence de Kirungu ont bénéficié de ces dons de l'UNICEF. Il s'agit notamment des couveuses, des lits d'hospitalisation et lits d'accouchement, des pinces et des médicaments. Le médecin chef des zones de santé de Moba espère que ces dons vont aider à réduire les décès dans sa zone de santé. Il souligne que la zone de santé figure parmi celles qui enregistrent un taux élevé de décès maternels suite au manque de médicaments et de matériels médicaux. Docteur Barun Moma rappelle que depuis le début de cette année, la zone de santé a déjà enregistré 10 décès maternels. Il estime que cela constitue un problème de santé. Le coordonnateur de la société civile de Moba salue cette initiative de l'UNICEF. Léon Taboupessa lance un appel au personnel médical de bien garder ses matériels et de ne pas les subtilisé. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Par ailleurs, l'Assemblée provinciale du Maniema a déclaré mercredi recevable la proposition d'édite portant sur la mobilisation des ressources financières en appui au secteur de la santé dans cette province. Cette première proposition d'édite est l'œuvre du député provincial élu du territoire de Kailo. Dr Kibungi Mutanga Junior félicite ses pairs pour avoir accepté cette proposition qui vise l'amélioration dans le secteur de la santé. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalonga.
Nous avons proposé aux élus du peuple que sur la totalité des montants de la redevance minière du gouvernement provincial, on puisse tirer 2,5% de ces montants-là et mettre ça à côté pour le secteur de la santé. Et en dehors de ce mécanisme, nous savons qu'il y a d'autres formes de financement. Dans le budget provincial qui sera voté pour l'année 2025, on puisse aligner une ligne spéciale pour appuyer les services de vaccination en province. Et rien n'empêche, s'il y a d'autres dons et legs, ça sera toujours bienvenu pour appuyer notre caisse qu'on veut créer pour le système de santé. Il y a 20% qu'on donne à la province après nous avoir mobilisé au niveau des SAIMAP ou autres services. Maintenant, dans les 20% là, on prend 2,5%, on met à côté pour le secteur santé. Le gouvernement central nous appuie habituellement avec les partenaires, mais l'apport là n'est pas suffisant.
On revient ici à Kinshasa, où la direction de la morgue centrale des Mama Emo procédera à l'enterrement de tous les corps abandonnés dans les différentes morgues de la ville. Cette annonce est faite dans un communiqué officiel de l'hôtel des villes ce mercredi. L'opération débutera incessamment et aura lieu au cimetière Fula Fula dans la commune de Maluku. Dès ces faits, la direction de la dite morgue invite la population kinoise à ne pas céder à la panique et rassure que l'opération se déroulera dans le strict respect de la dignité des morts. Suivez le directeur de la morgue centrale dans cet extrait choisi par Miradim Fwingi.
La direction de la morgue centrale de Kinshasa informe le public qu'elle va procéder dans les jours à venir à l'enterrement des corps de personnes indigentes, abandonnées et mort-nées provenant de toutes les morgues de la ville province de Kinshasa. Cette opération se fera à la lumière du jour au cimetière de Fula Fula dans la commune de Mal. Succès, elle prie à la population de ne pas paniquer car elle veillera à la dignité et au respect dit aux morts.
Autre nouvelle, deux jours après l'interpellation et la détention à l'ANER du vice-ministre honoraire de la justice Bernard Takaïché, sa famille exige sa libération pour une procédure judiciaire normale sur les faits lui reprochés qu'on ne connaît pas. Dans un témoignage fait ce jeudi, la fille de l'ancien ministre de la justice et cadre de l'UDPS dit que personne de sa famille n'accède aujourd'hui à son père. Elle s'insurge contre des messages distillés sur la toile lui attribuant un présumé détournement des deniers publics. Agathe Takaïché est jointe par Jeff Ngoy.
Le mardi, papa s'est rendu aux locaux de la DEMIAP. Il a été reçu par un colonel. Et après leurs échanges, le colonel il ne lui a pas dit le motif pour lequel il a été interpellé. Ce n'est que vers 13h, papa qui envoie d'autres messages pour dire que il est retenu là-bas à la DEMIAP, mais on lui a dit il y a un bus de l'ANER qui viendra le chercher. C'est vers 14h qu'on a escorté papa à l'ANER. Jusqu'à ce jour, nous, sa famille, nous n'avons aucun contact avec papa. Nous ne savons pas de quoi il s'agit. Et même son avocat n'a pas eu accès à l'ANER. On ne sait pas comment est-ce qu'il est, est-ce qu'il mange, nous sommes soucieux. Et maintenant, on voit sur les réseaux sociaux, on dit qu'il y a eu détournement s'il y avait un rapport de l'IGF. Nous demandons sa libération, qu'on puisse le libérer et qu'on puisse suivre la procédure judiciaire. Comme cela se fait, il doit y avoir un plaignant, il doit y avoir une convocation, il doit aller répondre.
Voilà, c'était là la fille de l'ancien ministre de la Justice, Bernard Takaïché, et sa fille Agathe Takaïché. Et au Sud Kivu, l'opération de cartographie des lieux de détention et d'identification des détenus ayant besoin d'assistance gratuite a démarré à Bukavu. Cette identification a débuté le 19 août. Le lancement officiel de la première phase a été fait par le ministre provincial de la Justice, Faustin Mayani, en présence de plusieurs hauts magistrats et militaires, membres de la commission mixte du Sud Kivu. Deux objectifs sont donnés à la commission mixte. Premièrement, faire la cartographie de tous les lieux de détention de Bukavu. Et deuxièmement, pour chaque lieu de détention visité, identifier tous les détenus arrêtés irrégulièrement et les détenus réguliers vulnérables. Rachel Kessimbango nous fait le point.
Les détenus arrêtés irrégulièrement seront identifiés pour des libérations immédiates. Les détenus réguliers vulnérables seront assistés gratuitement. Leurs dossiers seront directement pris en charge par les avocats du projet Accès à la justice. Cette activité est organisée par le ministère provincial de la justice du Sud Kivu et la division provinciale de la justice appuyée par le projet Accès à la justice. Un projet mis en œuvre par le consortium des ONG internationales Alert, IPIS et Paul Institute, avec le financement du Royaume des Pays-Bas pour une période de 4 ans. La cartographie des lieux des détentions de Bukavu va continuer jusqu'au 4 septembre 2024 pour se rassurer que tous les lieux de détention ont été visités par la commission mixte et que tous les cas nécessitant l'assistance judiciaire gratuite ont été identifiés et pris en charge par le projet Accès à la justice, car c'est le projet qui va supporter le frais de justice et les honoraires des avocats. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans la province de la Tchopo, le personnel administratif de la commune de Kisangani, une des 6 entités urbaines de la ville portant le même nom, travaille dans des conditions difficiles. En cause, le manque des locaux et l'envahissement de leur espace de travail par les déplacés du conflit intercommunautaire Mbole-Lingola. Le bourgmestre intérimaire de cette juridiction, Mathieu Saïdi Kakolongo, plaide pour la réhabilitation de ces bâtiments et le retour de ces déplacés dans leurs milieux respectifs en vue de l'efficacité du travail. Plus de détails avec Jacques Mkongole.
Le bureau administratif de la commune Kisangani est complètement assiégé par les déplacés. Difficile pour les agents administratifs de travailler dans des conditions optimales, comme l'explique Mathieu Kankolongo, bourgmestre intérimaire de cette entité.
Cette salle, c'est une salle polyvalente qui avait été construite à l'époque par la CTB, aujourd'hui Enabel. Tout l'exécutif communal, avec les conseils communaux, y compris tous les services des différentes divisions commis au niveau de la commune, tous à Combré ici, que les conditions de travail ici sont très très difficiles.
Une autre raison à la base de la désertion de ce bâtiment, c'est qu'il ne ressemble plus qu'aux vestiges d'un monument historique après avoir subi la colère des manifestants en 2012. Mathieu Saïdi Kankolongo explique.
Lorsque la ville de Goma était tombée entre les mains d'M23 à l'époque, la population, pour exprimer leur ras-le-bol vis-à-vis des autorités de la République, c'était d'aller incendier les bureaux de l'État. C'est comme ça que ces bâtiments administratifs de la commune a été détruit.
Un devis fourni par la Caritas pour la réhabilitation et l'équipement de ces bâtiments a été estimé à 120 000 dollars américains, déclare l'autorité communale. Faute de moyens suffisants, cette dernière se tourne vers l'autorité provinciale pour résoudre ce problème. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, l'organisation Action contre la faim relève une augmentation préoccupante des cas de malnutrition infantile dans un rapport publié mardi 20 août. Les enfants de moins de 5 ans vivant à l'intérieur des camps des déplacés dans le nord-est du pays sont particulièrement concernés. La malnutrition touche 30% des enfants dans des endroits. Parmi les causes de cette malnutrition infantile, l'ONG pointe les différents conflits au Mali en cours depuis 2012.
L'invité.
Depuis le lundi, les casques bleus bangladais de la MONUSCO forment une vingtaine de jeunes de Bounia sur les techniques d'agriculture pour une production rapide. C'est une initiative du Parlement des jeunes de l'Ituri et du Conseil urbain de la jeunesse. En quoi consiste cette formation et quel peut être son impact sur la vie quotidienne de ces jeunes? Pour en parler, nous recevons Gloire Abassi, le président du Parlement des jeunes de l'Ituri. Il s'entretient à Bounia avec Martial Kiza Biamungu.
Gloire Abassi, bonjour. Vous êtes parti sur quel constat pour solliciter une formation de jeunes sur l'agriculture?
Le constat était que les jeunes aujourd'hui à Ituri sont un peu stressés et ils sont en train de s'interroger sur plusieurs questions par rapport à leur avenir. tout en pensant que l'Ituri ne sera pas pacifiée. Nous, avec notre conviction, vu les efforts qui sont consentis par l'administration militaire, nous nous sommes dit les 3 ou 4 territoires qui étaient en insécurité, aujourd'hui il y a quand même la calmie. Et nous avons estimé que l'Ituri étant potentiellement riche, on devrait en principe solliciter la formation en agriculture. Et comme vous le savez, l'agriculture permet à toute une communauté de vivre et de survivre par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. S'il n'y avait pas l'agriculture, la population de Bounia et Aer ne pouvait pas avoir à manger. Et grâce à ça, vu qu'il y a beaucoup de stress, on estime que les jeunes qui seront capacités en agriculture vont sûrement aider la province de l'Ituri.
Alors, à quoi consiste cette formation?
Cette formation consiste à améliorer la compétence ou les compétences des jeunes en matière de l'agriculture. Parce que aujourd'hui, chaque culture nécessite au moins une période. Et des fois, les gens se donnent la charge d'aller un peu planter ce qui n'est pas dans cette période-là. Et ça amène souvent à l'échec. Donc, notre souci était que les jeunes soient outillés et capacités par rapport à l'agriculture, en fait, qui contribue positivement dans la société.
Qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes dans la société après avoir suivi cette formation ou renforcement des capacités?
Et ce que nous attendons de ces jeunes, c'est d'abord premièrement que ces jeunes s'engagent à améliorer la situation que l'Ituri traverse aujourd'hui. Et comme vous le savez bien, si tout le monde s'est donné ce courage-là de faire la paix en Ituri, l'Ituri ne pouvait pas sincèrement attendre la nourriture, qui est donc la nourriture par exemple pour les biens qui seront exportés de l'Ouganda. Aujourd'hui les tomates, aujourd'hui pommes de terre viennent, même les maïs de l'Ouganda, pendant que nous avons des terres qui sont arables et on peut toutefois aussi planter pour aider Tassouapé l'Ituri. Et ce que nous attendons après cette capacitation de renforcement de ces jeunes est que ces jeunes soient les vecteurs du changement dans notre société et que nous ne puissions pas exporter mais que nous puissions importer à l'intérieur.
Pour finir, Gloire Abassi, est-ce qu'il y aura un accompagnement pour que ces jeunes puissent avoir des intras pour leur permettre de se lancer dans l'agriculture?
Par rapport à l'accompagnement, oui, nous sommes dans les plaidoyers afin que ces jeunes qui seront outillés et qui seront dotés de cette compétence-là de la part de ces contingents bangladais puissent aussi avoir quelque chose pour qu'ils aussi servent d'exemple pour d'autres. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes veulent être seulement dans des bureaux. Ils ne savent pas que pour être dans des bureaux, il faut commencer d'abord petit. Et il faut faire des choses qui vont sûrement aider les gens d'une manière pratique. Et notre souhait également était qu'il y ait un rapprochement entre les contingents bangladais ou encore la MONUSCO et toute la jeunesse de la province de l'Ituri. Comme nous vous l'avions signifié, messieurs les jeunes, nous allons vous signifier la première formation que nous venons à peine de commencer, c'est en agriculture. La deuxième, avec les mêmes contingents, va viser maintenant l'amélioration des jeunes par rapport à l'informatique. Et ainsi de suite, nous allons évoluer jusqu'à ce que nous allons former également les jeunes en anglais, afin qu'eux aussi s'améliorent davantage. Donc nous invitons ces jeunes à l'assiduité et de savoir que nous sommes l'espoir de cette jeune province et nous devons nous engager aux actions concrètes et non théoriques afin que l'Ituri soit encore meilleure qu'hier.
Gloire Abassi, merci.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Notre invité, Gloire Abassi, qui est le président du Parlement des jeunes de l'Ituri, s'entretenait depuis Bounia avec Martial Kiza Biamongo. Par ici s'achève ce journal, coordonné par Élisée Chikota sous la supervision éditoriale de Martin Sebujangwe. La mise en onde était assurée par Polydor Basunga et grâce à Mzati Masanzi à la présentation. Merci pour votre attention.